bon de louer le Seigneur. C'est toujours bon de proclamer la victoire de Jésus. C'est toujours bon de proclamer la vie. Être amateur de la vie. Proclamer la vie. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est la vie qui vient. Et c'est la vie avec abondance. Maintenant, nous allons entendre la parole de Dieu qui nous sera apportée par Jean Villard. Je crois que c'est un message sur la Pentecôte que je te pose la question parce que il y a quelques années, on m'avait demandé d'aller prêcher dans une communauté et puis on m'avait donné la date. Et j'ai préparé un message et puis j'avais été inspiré. Je pensais parler sur le désert. Puis quand j'arrive dans la communauté, on me dit « Alors, tu as un message sur le Saint-Esprit ?» Puis je dis « Non, pas tout à fait, c'est sur le désert. » Puis ils me disent « Ah bon, mais c'est la Pentecôte. » Je n'avais pas réalisé que c'était la Pentecôte, le jour de Pentecôte. Alors j'ai dit « Ben, c'est pas grave. On va appeler ça la puissance au travers du désert. » On va prier pour Jean. Parce que nous croyons que la puissance est aussi au travers du Saint-Esprit, et surtout au travers du Saint-Esprit. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour Jean, notre frère qui a passé du temps à chercher le souffle de l'Esprit pour être inspiré et qui a préparé quelque chose pour nous. Alors nous te demandons, Seigneur, de le garder, de l'inspirer aussi pour nous le communiquer, mais nous demandons, Seigneur, que ce ne soit pas seulement ces mots que nous entendions, ce ne soit pas seulement des phrases que nous entendions, des concepts que nous entendions, mais que nous entendions ce que tu as à nous dire, à nous personnellement. Moi, je demande vraiment dans le nom de Jésus, parle à nous, à nos cœurs, parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Chers amis, frères et sœurs, est-ce que vous avez un ami auquel vous ne tenez pas un copain parmi d'autres, mais un ami avec qui la relation est vitale? Eh bien, si votre meilleur ami, un jour, vous quitte pour longtemps, quel est votre sentiment? Après Pâques, les 11 apôtres avaient le meilleur des amis, Jésus. Mais un jour, il s'est séparé d'eux. Quelle douleur pour les apôtres? Eh bien, non! À la fin de l'évangile de Luc, nous lisons « Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. » Jésus venait de les quitter et c'est la joie qui les habite. Comment cela se fait-il? C'est que Jésus, avant de souffrir et de mourir, avait fait promesse. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 18 à 23. C'est Jésus qui a dit cela à ses proches. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. » En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous me verrez, a dit Jésus, mais quand et comment? Bien sûr, on pense d'abord aux apparitions du ressuscité. Des femmes, puis les apôtres, ont vu Jésus de leurs yeux, Jésus ressuscité. Mais les promesses de Jésus que nous venons de lire vont plus loin et plus profond. Plus profond, car le Fils de Dieu ne sera plus en face des témoins, mais il viendra demeurer chez eux, en eux, avec le Père céleste. Et ces promesses vont plus loin, car la promesse n'est pas réservée aux quelques personnes qui ont pu être témoins oculaires de la résurrection. Non, relisons le verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Aimez-vous Jésus ? Avez-vous perçu ses paroles ? Respectez-vous ses commandements ? Alors, la promesse est pour vous, pour chacun de vous. Et comment cette promesse va-t-elle se réaliser ? Eh bien, de nouveau, nous lisons une parole de Jésus, Jean 15, verset 26, et Jean 16, verset 14. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et l'Esprit de vérité, lui, me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ce que nous fêtons à Pentecôte. L'Esprit Saint descend sur l'Église. L'Esprit rend Jésus présent en nous et parmi nous, avec toutes les richesses qu'il y a en lui, et il le glorifie. À la Pentecôte, quand Pierre, rempli de l'Esprit, a parlé à la foule, ses paroles tendaient vers un but, un seul. Elles visaient à convaincre les auditeurs d'une vérité. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 4, verset 36. Le Christ est vivant, il agit aujourd'hui et il habite dans ceux qui s'abandonnent à lui. L'Esprit ne se prêche pas lui-même, il ne se met pas lui-même en avant, il ne se glorifie pas. Il annonce et il présente le Fils de Dieu, il le glorifie. La présence du Christ en nous par son Esprit se manifeste de beaucoup de façons différentes. L'une de ces manifestations, c'est ce qu'on appelle le parler en langue, la glossolalie. Et il y a de cela deux dimanches, Pauline en a témoigné. Elle a reçu ce cadeau de pouvoir parler en langue, c'est-à-dire prononcer des syllabes incompréhensibles à première vue pour communiquer avec Dieu. Et ça a été pour elle une grande joie. Alors, qu'en est-il de ce parler en langue ? À quoi sert-il ? Quelle est sa place ? Nous lisons des paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, au verset 2. « Celui qui parle en des langues inconnues, donc c'est là justement ces syllabes incompréhensibles, celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Oui, c'est un beau cadeau de la grâce que de pouvoir dialoguer ainsi avec notre Père dans l'intimité, dans une chambre secrète où aucun autre être humain ne peut pénétrer. J'hésite à le dire, j'ai aussi reçu ce cadeau. La première fois, c'était il y a bien des années, j'étais au volant de ma voiture, je me suis mis à prononcer quelques syllabes intelligibles. Et la suite, je ne vais pas vous la raconter, c'est secret. Je vous dirai simplement que j'ai reçu là une conviction qui m'a permis d'agir paisiblement. Alors, un tel parler en langue inconnue, n'est de loin pas le seul moyen de communiquer avec Dieu personnellement dans l'intimité. L'Esprit rend Jésus présent. Et cela peut se vivre de toutes sortes de façons. Ça peut se vivre dans le silence, ou des soupirs, ou des pleurs, ou des cris, ou la youtz, pourquoi pas, ou des paroles claires et intelligibles. Aucun de ces moyens n'est supérieur à l'autre. Peu importe la forme, l'essentiel, c'est de pouvoir vivre de tels moments. C'est si précieux. Et il est bon de mettre du temps à part pour cela. Tous nous en avons besoin. Mais cette présence intime de Jésus, ça n'est pas le seul cadeau de l'Esprit. Il y a bien d'autres cadeaux, il y a bien d'autres œuvres de l'Esprit. Et l'œuvre la plus remarquable, c'est celle que nous fêtons aujourd'hui. Nous allons lire, relire encore une partie du récit de la Pentecôte dans Actes 2. Nous lisons depuis le verset 4, le début bien connu, vous savez d'ailleurs, Éric l'a rappelé, les disciples étaient enfermés, peureux, et puis tout à coup il y a un immense vent, des langues de feu sont apparues, sont descendues sur chacun d'eux, et alors au verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Comment un tel événement a-t-il été possible ? Franchement, je ne sais pas, cela dépasse mon entendement. Il y a là un événement unique. Que je sache, il ne s'est jamais reproduit avec tous les détails et avec une telle ampleur. Vous figurez ça ? Une traduction instantanée et simultanée en une quinzaine de langues. Et chacun a compris, chacun a entendu dans sa langue, il a compris. Contrairement au parler en langue inconnue dont nous parlions tout à l'heure, où là, personne d'autre ne comprend que celui qui vit cette intimité. Mais là, justement, chacun a entendu, chacun a compris. Eh bien, c'est là un événement unique, mais qui fonde l'unique Église, cette Église qui est appelée à s'étendre à toute l'humanité. On a souvent remarqué que la Pentecôte, c'est l'inverse de la confusion des langues à la tour de Babel, cet événement qui a fait qu'on ne se comprenait plus les uns les autres. Mais la Pentecôte n'est pas un retour en arrière. Les croyants ne sont pas appelés à parler tous une seule langue qui serait définie comme la langue sacrée. On en trouve dans d'autres religions, mais dans le christianisme, il n'y a pas de langue sacrée unique. C'est un peu comme l'anglais qui est la langue parlée par tous les scientifiques et techniciens du monde. Ben non, c'est pas ça qui se passe à la Pentecôte. Ils parlent pas tous la même langue. Non, le miracle, c'est que la parole de Dieu descend pour rejoindre chaque homme là où il est, dans sa langue maternelle, et bien sûr aussi avec toutes les idées et les sentiments qui sont liés à la langue. Donc chacun est rejoint dans sa culture, dans son environnement social. l'événement unique de la Pentecôte a eu un retentissement immense au cours des siècles, dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui. Certes, nous avons besoin d'apprendre, d'étudier, apprendre les langues étrangères, étudier pour comprendre les mentalités d'autres peuples ou d'autres milieux sociaux. En général, cela n'est pas donné miraculeusement. Mais l'essentiel, c'est que Dieu puisse parler à chacun, se faire comprendre de chacun. Et c'est un prodige, il se reproduit aujourd'hui sur les 5 continents. Et voici un exemple particulièrement frappant. Je vais vous lire quelques phrases de Don Richardson dans son livre « L'éternité dans leur cœur ». Richardson écrit ceci. « En 1962, ma femme Carole et moi, ainsi que notre fils de 8 mois, Stephen, nous rendîmes en Nouvelle-Guinée comme missionnaires parmi les Saoui. Vous connaissez les Saoui ? Moi pas. Mais c'est l'une des 5 ou 6 tribus de la planète à pratiquer à la fois le cannibalisme et la chasse aux têtes d'hommes. Nos premiers essais pour communiquer l'Évangile furent contrecarrés par leur admiration pour ce qu'ils appelaient les maîtres de la trahison, c'est-à-dire des hommes habiles qui pouvaient faire croire à de l'amitié pendant des mois et en quelque sorte gaver leurs victimes de fausse amitié pour les exécuter ensuite traîtreusement. À cause de ce culte du héros, maître de la trahison, culte tout à fait inhabituel, les Saoui prirent Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus, pour le héros de l'histoire. Et Jésus, à leurs yeux, n'était qu'une dupe dérisoire. Nous étions donc, Carole et moi, confrontés tout à coup à 2 énormes problèmes de communication. D'abord, comment faire comprendre l'Évangile à des gens dont le système de valeurs était à l'opposé de l'éthique du Nouveau Testament ? Ensuite, comment être sûr que nous ne serions pas les prochaines victimes d'une fausse amitié ? En demandant l'aide de Dieu dans nos prières, nous découvrîmes finalement l'unique façon de faire la paix avec eux et de prévenir une trahison. Si un Saoui offrait son fils comme enfant de paix à une autre tribu, non seulement les griefs passés étaient réglés, mais toute trahison était impossible tant que l'enfant était vivant. La clé toute trouvée qui permettait la communication consistait alors à présenter Jésus-Christ comme l'ultime enfant de paix, sur la base d'Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Ésaïe qui disait « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, voilà ce que fera le Seigneur. » Et il y a bien sûr Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé. » Jésus, l'enfant de paix. Alors, par ce moyen, les Saoui saisirent enfin la signification de l'Évangile. Quand ils se rendirent compte que Judas avait trahi un enfant de paix, ils ne le prirent plus pour un héros, car il avait commis le pire des crimes. Depuis lors, environ les 2/3 de ce peuple ont, comme ils le disent, imposé les mains par la foi à l'enfant de paix de Dieu, Jésus-Christ. Voilà un exemple remarquable d'une communication réussie grâce à l'intervention de l'Esprit qui a répondu à la prière de ces missionnaires qui risquaient leur vie dans un contexte pareil. Et l'obstacle qui paraissait insurmontable a été surmonté. La difficulté à vaincre n'est en effet pas seulement la bizarrerie de la langue, c'est aussi l'étrangeté de certaines mentalités, de certains styles de vie. Il n'y a d'ailleurs pas besoin d'aller jusqu'en Nouvelle-Guinée pour le remarquer. Dans notre pays actuellement, il y a une énorme diversité de systèmes de valeurs et de formes de comportement. Il y a des choses qui paraissent toutes naturelles à certains groupes et qui paraissent contre nature à d'autres, et ainsi de suite. Des choses qui sont admirées avec ébahissement et au contraire méprisées par d'autres groupes. J'en donnerai juste un tout petit exemple. La musique actuellement à la mode chez les jeunes et qu'on entend parfois dans certains magasins hurler par des haut-parleurs, franchement, cette musique-là ne me plaît pas beaucoup. Hein. Quand ça passe à la télé, je coupe le son. Franchement, moi j'aime autre chose comme musique. Mais si des chrétiens pratiquent ce style de musique, ce genre-là, et proclament l'évangile par leur chant, s'ils sont écoutés et compris de jeunes incroyants qui pour moi sont inaccessibles, alors je m'en réjouis et je bénis Dieu pour mes jeunes frères et sœurs qui font une musique à mes yeux insolite. Mais ils rejoignent d'autres, ils leur parlent, ils leur apportent l'évangile et ça c'est merveilleux. Alors en conclusion, pour qui l'Esprit est-il donné? Est-ce qu'il est donné pour moi, pour chacun de nous? Ben oui, en un sens, car l'Esprit me présente ce don merveilleux qu'est la présence de Jésus. Et il me donne de dialoguer avec lui, que ce soit par le parler en langue ou par d'autres moyens. Alors, est-ce que l'Esprit est donné seulement à moi, seulement à chacun? Bien sûr que non. Il est donné pour les autres, pour la communication avec les autres. Et c'est là, finalement, le plus important. L'Esprit donne la capacité de traduire la parole inspirée, de la dire dans la langue de chacun, de le rejoindre dans sa mentalité et dans sa culture. Et ainsi, la vie de Jésus se répand dans le monde. Et bien que Dieu bénisse sa parole et que son esprit multiplie en nous les facultés de transmettre, de communiquer. Nous allons le demander ensemble et je le demande aussi pour moi-même. Merci à vous tous qui priez pour moi. Amen.